laisse pas traîner ton fils. Si tu veux pas glisse, qui te ramène du vice. Non, laisse pas traîner ton fils. Laisse pas traîner ton fils. Si tu veux pas glisse.
www.radio-g.fr.
Ce soir, Radio G sur Angers 101.5 FM. Alors bon, on va avoir la musique peut-être à un moment donné, mais en attendant, c'est Arnaud qui fait la présentation ce soir. Vas-y.
Bonsoir à tous. Bienvenue pour ce rendez-vous. On est avec vous jusqu'à 21h avec Mohamed qui ce soir est à la technique.
Voilà, qui se bagarre contre la technique.
Ça va s'arranger, ça va s'arranger. Anne, que vous avez entendu. Et puis, on a un petit peu de public ce soir. Merci à Nicolas et Oumar qui sont venus nous rejoindre. Voilà.
Donc, on passe une petite heure ensemble et j'espère que celle-ci vous sera agréable.
Eh bien, écoutez, on va démarrer. Écoutez, ce soir, donc, et on va avoir beaucoup de spécial. On a un spécial Angers. Avec une lettre. On a un spécial Assemblée nationale avec un couac. On a un spécial News d'Afrique. Et puis, de la musique. Comme d'habitude. Et puis, toi, tu vas nous faire quelque chose d'un peu plus développé, je crois.
Je vais vous parler du droit d'asile en France qui est un peu menacé. Alors, on le sait depuis quelques années, mais il revient là au devant de la scène puisqu'on arrive en période électorale. Donc, on en parlera puisque les LGBT sont particulièrement concernés par ce droit d'asile dès lors qu'ils ont été obligés de fuir leur pays. Donc, c'est important aussi pour nous de vous en parler. Donc, on y consacrera dans cette émission un petit moment.
D'autant plus que bon, on peut te considérer comme quelqu'un qui sait de quoi il parle, étant donné que tu fais partie du groupe Asile, fort important, de Quasar.
Absolument, on accompagne un grand nombre de personnes chaque année, donc ce sera l'occasion aussi de vous le rappeler.
Mmh. Il y a quelques bonnes nouvelles et tout ça, donc c'est bon. Eh bien, écoutez. Mais... Hey Mohamed. Ah, j'entends le générique.
Yes,
c'est parti. Bon. Alors Achille n'est pas là ce soir parce que malheureusement il a pas pu venir. Mais bon, j'espère que la prochaine fois il pourra venir faire la technique. Parce que Mohamed a une chronique, des news et puis maintenant il fait la technique. Donc ça y est.
Mohamed, je crois que tellement concentré sur la console, t'as pas eu le temps de nous dire bonjour. Alors si ton micro est ouvert, on veut t'entendre.
Ok, bonsoir tout le monde.
Yes, Mohamed est avec nous.
Ok, alors on va commencer par une première information locale qui nous a obligés à réagir, n'est-ce pas Arnaud ?
Oui, vous n'êtes pas sans savoir évidemment que la Manif pour tous a réuni 42 000 personnes ce dimanche 6 octobre à Paris. Toujours pour lutter contre nos droits, en l'occurrence la PMA, cette fois. Donc vous n'êtes pas sans savoir non plus qu'un nombre important d'adjoints de notre maire s'opposent systématiquement à nos droits. Il y a encore 5 élus de la majorité qui continuent de refuser de marier des couples homosexuels avec l'accord de monsieur le maire, faut quand même le dire. Donc nous n'avons évidemment pas été surpris d'apprendre que l'adjoint Maxence Henry s'est rendu à cette nouvelle manifestation. En revanche, il portait l'écharpe tricolore à gland en bandoulière. Et il a donc été vite repéré par les journalistes présents qui sont venus l'interviewer. Nous avons même eu droit à une petite vidéo de ses déclarations sur le compte Twitter du journal La Croix que M. Maxence Henry a bien vite retweeté sur son propre compte. Or, le port de cette écharpe tricolore signifie que l'élu représente le maire. Tout naturellement, plusieurs élus de l'opposition ne se sont pas privés pour le lui rappeler et demander à M. Christophe Béchu, maire d'Angers, si nous devions considérer que son adjoint le représentait dans ce cortège. Très vite, Maxence Henry, qui est élu depuis quelques années maintenant, a déclaré qu'il ne connaissait pas la réglementation en la matière. Il a donc découvert les articles de loi qui définissent les règles du port de cette écharpe en avouant qu'il n'en connaissait même pas l'existence.
Oh.
On peut sérieusement en douter, et de toute façon, nul n'est censé ignorer la loi, surtout si l'on est élu. Nous avons donc adressé un courrier à monsieur le maire d'Angers pour mieux comprendre ce qui s'est passé. Je vais donc vous lire la lettre que Quasar a postée ce matin même. Monsieur le maire, dimanche 6 octobre à Paris, la Manif pour tous organisait une manifestation contre la PMA ouverte aux couples de lesbiennes ou aux femmes célibataires suite au vote en première lecture par l'Assemblée nationale. Monsieur Maxence Henry, votre adjoint à la politique intergénérationnelle et aux seniors, adjoint du quartier Justice Madeleine Saint-Léonard, également votre conseiller communautaire d'Angers-Loire Métropole, participait à cette manifestation. Il arborait à cette occasion une écharpe tricolore bien visible sur la photo de son tweet, en faisant référence au compte de monsieur Maxence Henry, c'est @maxence49. Je veux m'opposer à la marchandisation du corps humain, c'est un monde vers lequel je ne veux pas aller. L'article D2122-4 du Code général des collectivités territoriales, modifié par le décret numéro 2012-50 du 18 décembre 2000, article 1, dispose que les maires portent l'écharpe tricolore avec gland à franges d'or dans les cérémonies publiques et toutes les fois que l'exercice de leur fonction peut rendre nécessaire ce signe distinctif de leur autorité. Et précise que les adjoints portent l'écharpe tricolore avec gland à franges d'argent dans l'exercice de leur fonction d'officier d'état civil et d'officier de police judiciaire. Et lorsqu'ils remplacent ou représentent le maire en application des articles L2122-17 et L2122-18, lesquels articles fixent leur désignation éventuelle et les conditions générales de cet exercice. Quasar vient vous interroger, pour savoir si vous avez mandaté M. Maxence Henry pour vous représenter lors de cette manifestation. Seul sens possible de ce port d'écharpe tricolore à l'instar de ses dispositions légales. Dans la négative, s'agit-il selon vous d'un exercice illégal de la fonction légale et de l'usurpation de signes réservés à l'autorité publique, tels que réprimés par les articles 433-14 et suivants du Code pénal. Quasar vous interroge enfin pour savoir si vous envisageriez de prendre des mesures ou sanctions face au geste de M. Maxence Henry. Dans l'attente de vous lire, veuillez agréer, M. le maire, nos salutations distinguées. Bien sûr, on vous tiendra informé de la réponse ou de l'absence de réponse de M. Béchu dans les prochains jours. À vous.
Et voilà, nous y sommes. Bien, donc Monsieur Béchu va recevoir cette lettre, je pense, demain. Elle a dû être envoyée aujourd'hui.
Je crois qu'il n'a toujours pas répondu aux élus de l'opposition qui l'interrogeaient à ce sujet. J'ai regardé encore ce soir, alors je suis passé à côté de l'information, mais il me semble que pour l'instant, il ne dit rien.
Bah, peut-être qu'il n'était pas au courant de cette loi. Encore un couac, peut-être. Alors, news. Bon, j'avais des tas de news et puis finalement, ben, y en a quand même une énorme qui nous est tombée dessus hier soir. On s'y attendait un peu.
Toujours au sujet de l'actualité, Arnaud, tu as entendu ce lundi que l'Assemblée nationale a relancé un débat autour de l'immigration et du droit d'asile.
Oui, alors en effet Mohamed, mais c'est le développement que l'on va faire un petit peu plus tard.
D'accord.
Donc en fait là on va parler, si vous le voulez bien, justement des brèves. Donc
Mohamed est plein d'allant, il a envie que t'en parles. Hein.
Ouais, effectivement.
On va y consacrer un moment, je t'assure Mohamed.
Tu nous en as parlé un petit peu hier soir, donc effectivement on est un petit peu, on est sur les starting blocks, là, on attend. Mais c'est pour la fin de l'émission.
Oui, donc là, maintenant, c'est toi que l'on va écouter, Anne, avec tes news, justement. À toi.
Alors donc, j'avais plusieurs news, mais voici qu'en France, il s'est passé quelque chose. Vous avez entendu peut-être parler de la loi bioéthique, dans laquelle il y a plusieurs thèmes, dont la procréation médicalement assistée qui serait ouverte aux couples de femmes et aux femmes célibataires. Et puis, tout le monde s'est mis à parler de la GPA, donc un amendement avait été proposé pour donner la filiation des enfants nés par GPA. à l'étranger, évidemment, puisque c'est interdit en France, et pour donner une filiation automatique. Alors, ça a été voté, à la surprise de pas mal de monde, il faut bien le dire. Donc, le 3 octobre, eh bien, l'Assemblée nationale a voté pour cet amendement qui donnait la reconnaissance automatique en France de la filiation d'enfants conçus par GPA à l'étranger. Une demi-heure plus tard, Madame Belloubet a signalé que le gouvernement demandait qu'il y ait un nouveau vote. Ouais. Un nouveau vote parce que le gouvernement a motivé cet amendement par le refus d'ouvrir, je cite, une brèche dans la prohibition de la GPA, prohibition qu'il souhaite absolument maintenir. Dans notre promesse politique très claire de 2017, c'était extrêmement clair. Très clair et très clair. La GPA en France, jamais, assure le président du groupe LREM, Gilles Legendre. Donc, le député LREM Jean-Louis Touraine et 13 de ses collègues avaient souhaité, donc la semaine dernière, par cette reconnaissance automatique de filiation, consacrer une jurisprudence et ne pas pénaliser ses enfants. La garde des Sceaux avait donc plaidé sans succès pour le maintien du droit actuel, soit une retranscription partielle de l'acte d'état civil au regard du père biologique et un processus d'adoption pour l'autre parent. L'arrêt de la Cour de cassation du 4 octobre, qui tranche un cas d'espèce, celui des jumelles Monesson, que vous trouverez partout sur Internet, réaffirme la conformité du droit français actuel aux dispositions de la Convention européenne des droits de l'homme, a assuré Nicole Belloubet. Donc, en fait, la loi a été revotée. Et ils ont voté par énormément de voix pour. Il y avait très peu de monde hein, lors du premier vote, ils étaient 75 en tout. Et là, ils étaient beaucoup plus nombreux. Alors, et oui. ils ont voté contre l'amendement. Arnaud ?
Oui, non seulement ils n'étaient pas nombreux au début, mais ils étaient encore moins nombreux à la fin de la séance. Et par contre, on peut se réjouir puisque Agnès Thiel, qui est quand même une des opposantes acharnées, est même arrivée en retard et n'a pas pu voter. Malheureusement, là, elle va pouvoir se rattraper.
Donc voilà, il y a des gens qui arrivent en retard. Il y a des gens qui s'étaient trompés aussi, qui avaient crié qu'ils s'étaient trompés. Enfin bref, c'est vraiment une sorte de pataquès cette histoire, il faut bien le dire. Donc, le mercredi 9 octobre, toute reconnaissance automatique en France de la filiation d'enfants conçus par GPA, la gestation pour autrui, dans un pays étranger où la pratique est autorisée, a été rejeté par 139 voix contre 23 et 7 abstentions. Un amendement du gouvernement pour supprimer la mesure relative a suffi. Ça a été, selon Gilles Legendre, le premier vote a été un couac. Ouais, pas d'hésitation, ça doit être un terme politique, hein, le couac. Donc il y a eu un couac dans le vote. Les gens LREM qui ont voté pour cet amendement n'avaient sans doute rien compris. On ne sait pas bien, mais il y a eu un couac en tout cas. Cependant.
Ah oui, c'est vrai qu'il y a des gens qui ont voté en même temps contre et en même temps pour. Donc ça, c'était fort. Je crois qu'il y en a 14 hein, quand même. Hein. Donc je me trompe peut-être sur le nombre, mais en tout cas, il y a beaucoup de députés qui ont voté pour et contre en même temps.
En fait, ils étaient d'accord, pas d'accord, on ne sait pas bien. Mais toujours est-il que le député, donc LREM, Jean-Louis Touraine, et 13 de ses collègues qui avaient souhaité la reconnaissance afin de ne pas pénaliser les enfants, persistent et signent. La plupart des élus LREM, LR, Modem, UDI, Agir et PCF ont soutenu l'amendement du gouvernement. Et oui. Quand les élus socialistes et Liberté et Territoire ont voté contre, les insoumis se sont partagés. 5 marcheurs se sont abstenus, 15 se sont prononcés contre, dont Jean-Louis Touraine et Raphaël Gérard, qui avaient déploré ces derniers jours que le gouvernement revienne en arrière sur un vote qui avait été clair. Et veuille ainsi rester dans l'hypocrisie sur cette filiation. Heureusement, Madame Belloubet, garde des Sceaux, s'est engagée à trouver des solutions pour simplifier le recours à l'adoption et pour améliorer les délais de traitement des procédures d'adoption. Donc, finalement, tout va bien. Le député Touraine s'est réclamé d'une promesse du candidat Macron de permettre la reconnaissance des enfants nés par GPA à l'étranger. La co-responsable LREM, Aurore Berger, a affirmé que la promesse sera tenue par une circulaire que doit diffuser la chancellerie pour homogénéiser les pratiques, notamment d'adoption. Toujours vent debout contre le vote de la semaine dernière, Xavier Breton, les Républicains, a estimé que celui-ci avait mobilisé dimanche lors de la marche à Paris contre la PMA pour toutes. Alors, c'est extraordinaire parce que maintenant ils disent qu'ils ont fait cette marche à cause de cet amendement qui avait été voté. Souvenons-nous quand même que la date de la manif du 6 octobre là, avait été annoncée depuis des mois. Peu en parlaient, certes, mais elle avait été annoncée depuis des mois. Ils ont distribué des millions de tracts. Ils ont autocollé des tas d'endroits, dont Quasar.
Oui.
Ils ont je ne sais plus combien de cars et deux TGV affrétés pour être sûr que bon qu'on y aille. Hein, c'était gratuit pour les gens. Alors, ne nous racontez pas, s'il vous plaît, que la manif a eu lieu à cause du vote de la semaine dernière. Okay. Ça, c'est, on l'entend partout, on le lit partout. On nous assène des trucs énormes et ils sont persuadés que les gens ne vont même pas le remarquer. Enfin, bon, en tout cas, Xavier Breton, les Républicains, a dit « Vous rétro-pédalez, mais les masques sont tombés ». Quant à une volonté d'avancer vers la législation de la GPA, a lancé son collègue Patrick Hetzel, ses députés de droite préparent un recours au Conseil constitutionnel contre le projet de loi. C'est formidable. Donc, les quelques 80 heures au total dans l'hémicycle consacrés au projet de loi bioéthique, hein, en tout, se sont déroulées dans le calme, ce qu'ont salué plusieurs orateurs. Dans la dernière ligne droite, les députés ont voté le principe d'une révision des lois de bioéthique tous les 5 ans au lieu de tous les 7 ans. Alors,
d'accord.
Voilà où nous en sommes. Voilà, bon.
Alors, Anne, vas-y. Tu vas toujours continuer de parler encore, parce que là, si je ne me trompe pas, tu vas me parler de coming out, c'est ça ?
Eh bien, je vais vous parler effectivement de coming out. Et pourquoi, d'après vous ? Eh bien, parce que demain, 11 octobre, c'est la journée internationale du coming out. Alors, c'est quoi la journée internationale du coming out ? Je m'en vais vous le dire. Je vais vous donner l'origine déjà de cette journée. C'est la seconde marche pour les droits des gays et lesbiennes, March on Washington for Lesbian and Gay Rights, du 11 octobre 87. La première avait eu lieu en 1979. C'est très célébré en Amérique du Nord, cette journée. Elle connaît très peu de résonance en France. Le coming out de personnalité aux USA a eu depuis des années un effet boule de neige. Un sportif en encourageant un autre, une actrice ouvrant la voie à d'autres. Le 11 octobre 88, donc un an après cette première marche, March on Washington, l'occasion de la a été créée la première journée du coming out. Des milliers de gays et de lesbiennes avaient alors publié leur nom dans les journaux. Et c'est devenu vraiment quelque chose d'habituel. Alors le coming out, c'est quoi ? Exactement, parce qu'après tout, nous, enfin, moi j'ai fait le mien, bon. J'ai été outée d'un côté, j'ai fait le mien de l'autre côté, enfin bref, je pense qu'on a tous un peu vécu ce genre de choses.
Oui, forcément, oui.
Et en fait, alors il y a une seule personne qui a vraiment détaillé le coming out. Alors vous me direz, au fur et à mesure, hein, c'est en 6 points, ça va être rapide, vous me direz si... Vous êtes d'accord, si ça vous avez ressenti tout ça. Hein. C'est donc Vivienne Cass, c'est une psychologue australienne, qui a posé ça. C'est pour elle, c'est un modèle de la construction de l'identité homosexuelle. Ça commence par la confusion d'identité. Alors dans cette première étape, la confusion identitaire, le sujet est perturbé par l'éventualité de son homosexualité. Suis-je homosexuel ? En gros. Cette étape commence par une première prise de conscience, de sentiments et de pensées homosexuelles, l'attirance pour des personnes du même sexe. Typiquement, le sujet est souvent bouleversé et troublé par cette découverte.
D'accord, tu vas ramener ça sur le coming out, parce que pour l'instant, je vois pas le lien entre la prise de conscience.
La prise de conscience, c'est-à-dire que le coming out va venir ensuite. Donc, bon, je sais pas, vous avez ressenti ça, le trouble, etc. Bon, aucun moment. Bon,
je suis troublé parfois, je suis pas sûr que ce soit à cause de ça.
Alors, ensuite, il y a la comparaison d'identité, qui est à cette étape, le sujet accepte la possibilité de son homosexualité, considère les implications plus profondes de cet investissement éventuel. Peut-être suis-je concerné par cela. D'accord ? Ensuite, selon elle, hein, toujours, la tolérance de l'identité. La deuxième étape, après la comparaison, on admet son identité. D'accord ? Dans son identité homosexuelle. Ça, c'est la tolérance. Ensuite, il y a l'acceptation identitaire. C'est le sujet accepte, je vais être ok, le sujet attache une connotation positive à son identité gay ou lesbienne, et l'accepte plutôt qu'il ne la tolère. Ensuite, il y a la fierté identitaire, l'étape de la fierté identitaire, où parfois le coming out se produit. La pensée majeure est « je dois faire savoir aux gens qui je suis ». Le sujet divise le monde entre hétérosexuel et homosexuel, s'immerge dans la culture gay ou lesbienne, et quelquefois, pas toujours, minimise les contacts avec des hétérosexuels. Puis la synthèse de l'identité, et ça c'est la dernière étape du modèle de Cass, le sujet intègre son identité sexuelle aux autres aspects de soi, et l'orientation sexuelle devient un aspect de soi seulement, plutôt que son identité complète. Et c'est là, c'est dans cette avant-dernière étape, et dans cette dernière étape qu'intervient généralement, selon Madame Cass, le coming out. Le coming out, c'est le fait, évidemment, c'est sortir du placard au Québec. Le coming out, c'est le fait de dire aux autres et à soi-même, pour commencer généralement, que l'on est homosexuel, bisexuel, trans, etc. Et là, je vais vous renvoyer à une série qui a été produite par France TV. Coming out en France et en Afrique. C'est sur le site France TV/coming out en France et en Afrique. 6 épisodes avec des gens connus et des gens pas connus qui ont fait vraiment quelque chose de très sympa. La plupart des petites capsules durent 5, 6, 7, 8 minutes. Donc je vous conseille Coming out en France et en Afrique. C'est vraiment super sympa. Moi, je suis tombée là-dessus et j'étais vraiment ravie. Alors, faisons notre coming out si l'on le désire, selon le moment où on en est dans son acceptation de soi.
Et auprès des personnes que l'on choisit.
Bien entendu.
Maintenant, c'est Mohamed qui va nous parler. Bah, tiens, tu le disais toi aussi, Anne, à l'instant, tu parlais de l'Afrique. Donc, Mohamed, tu vas nous parler d'actualité, mais d'actualité plus particulièrement en Afrique. C'est bien ça ?
Oui, effectivement, comme tu l'as si bien précisé, plus particulièrement en Rwanda, au Zimbabwe, en Tunisie et au Kenya.
Et donc, si je comprends bien, on commence par le Rwanda, c'est ça ?
Oui Arnaud, c'est le site mediacongo.net. Au Rwanda, un chanteur gospel choque le pays après avoir révélé son homosexualité. Jusqu'à très récemment, Albert Nabimubiu était un chanteur gospel connu et apprécié au Rwanda, son pays natal. Puis, courant août, il a décidé de faire son coming out, révélant son homosexualité à ses proches et au Rwanda entier. Une annonce qui a fait effet d'une bombe et qui l'éloigne aujourd'hui de certains de ses proches. Dans un Rwanda encore puritain, certaines annonces ne pouvaient pas passer inaperçues. Dans une interview accordée à une chaîne YouTube, Albert Nabimubiu a fait le pari risqué de révéler son orientation sexuelle. Il s'exprimait en ces termes, bien sûr. « J'étais fatigué de vivre dans le demi. » Je voulais avoir une vie normale, confie aujourd'hui le chanteur gospel, alors qu'il fait l'objet de réprimandes et tout simplement de rejet de la part de certains membres de son entourage. C'est fou, je ne comprends pas pourquoi il pense que cela est normal. C'est estomaqué un ami de Nabimubiu dans un entretien avec l'Associated Press. Un autre ami, un homme qui fréquentait la même église que Nabimubiu, a déclaré qu'il était dans un état d'angoisse car le reste de sa famille savait qu'il fréquentait qu'il le fréquentait. Pour faire table rase à cette amitié, il a bloqué Nabomindo de tout contact téléphonique, affirmant qu'il souhaitait rester en sécurité. À 35 ans, le chanteur gospel est également un comptable qualifié et l'accueil dans son entreprise n'en est pas plus chaleureux, idem dans sa famille. Mais il n'y a pas de retour en arrière, car je dois vivre ma vraie vie, confie le chanteur. C'est tellement triste de voir des gens que vous connaissez vous maltraiter. Dans ce tribune de la morale, Albert Nabomibo peut toujours compter sur certaines autorités de son pays, notamment le ministre des Affaires étrangères qui a assuré sur son compte Twitter que tous les Rwandais sont nés et restent égaux en droit et en liberté. Bien des pays africains restent fortement opposés à l'homosexualité, considèrent comme aux antipodes des mœurs et valeurs africaines. Ainsi, plusieurs pays ont sauvegardé des lois héritées de la période coloniale ou mis à jour les lois criminalisant les relations et ou mariages entre personnes de même sexe.
Ok, donc là on était au Rwanda, maintenant tu vas nous parler du Zimbabwe, c'est bien ça?
Oui Arnaud, je vais vous parler de la perte d'un chef d'État dictateur, raciste et homophobe. En effet, le Zimbabwe de l'Afrique et l'Afrique, pardon, disent adieu à l'ex-président Mugabe.
Très célèbre chez nous aussi.
Voilà. Le Zimbabwe rendait samedi dernier un hommage national à son ancien et très controversé président Robert Mugabe, héros acclamé de l'indépendance d'un pays qu'il a fini par laisser épuiser au bout d'un règne autoritaire de 37 longues années. Robert Mugabe s'est éteint le 6 septembre à 95 ans dans un hôpital de l'X à Singapour, où il venait se faire soigner depuis des années. Contraint à la démission il y a 2 ans par son coup de force de l'armée et de son parti, il a laissé derrière lui un pays meurtri par la répression et ruiné par une crise économique sans fin, qui a plongé une large part de sa population dans la misère. L'ancien président zimbabwéen a multiplié tout au long de ses 37 ans de règne des formules chocs souvent provocatrices qui ont autant indigné ses détracteurs que ravi ses partisans. Petit florilège de ses sorties les plus polémiques. Là, vous allez lire. Je le cite. Je suis d'accord avec vous, les grands propriétaires ont des cœurs de pierre. On croyait qu'ils sont gifs. En 1992, il expliquera plus tard. Il expliquera plus tard qu'il ne visait pas les juifs, mais les Israéliens qui refusent d'accorder des terres aux Palestiniens. Mmh. De ce qui a détruit le socialisme dans l'ancien URSS, et je le déplore, ce n'est pas la doctrine, mais une série d'autres facteurs dont le fait que Gorbatchev est un imbécile, en 1997, en évoquant l'ancien président soviétique.
Bravo.
Les Britanniques ont été élevés comme un peuple violent, un peuple de menteurs et d'escrocs. On me dit que l'ex-premier ministre Tony Blair était un gamin turbulent à l'école, donc on ne peut pas avoir un dialogue satisfaisant avec des gens pareils en 2011. Et je suis le Hitler de notre époque. Cet Hitler n'a qu'un seul objectif, la justice pour son peuple, la souveraineté de son peuple, la reconnaissance de l'indépendance de son peuple et son droit à disposer de ses richesses. Si c'est ça être Hitler, eh bien laissez-moi 10 fois être Hitler en 2003 à ceux qui dénoncent ses méthodes dictatoriales.
Mais tu vois, là, on rigole moins. Hein.
Voilà. Le Zimbabwe m'appartient. Dieu seul qui m'a donné peut me destituer. Pas de MDC, Mouvement pour un changement démocratique, c'est-à-dire son opposition, pas les Britanniques, ex-colonisateurs, décembre 2018.
En réponse aux 2008.
Oui, 2008, je m'excuse. En réponse aux appels à sa démission. Et là, il dit que je suis mort plusieurs fois, c'est là que j'ai bâti le Christ. Le Christ est mort et ressuscité une fois. Je suis mort et ressuscité. Je ne sais pas combien de fois je vais mourir et ressusciter en 2012 sur les lumières prématurées de sa mort. Et c'est, il attaque Mandela. Il dit Mandela est allé un peu trop loin en étant bon vis-à-vis des communautés non noires. Parfois, même aux dépens des noirs. C'est être trop sain, trop bon. Et là, il attaque l'Europe ensuite. Il dit que l'Europe garde son absurdité homosexuelle pour elle et qu'elle ne vienne pas ici avec, en 2014, en menaçant d'expulsion les diplomates occidentaux plaidant pour les droits homosexuels.
Waouh.
Ben, dis sympa, donc, quel privilège. C'était très chouette.
Bon, on ne le regrettera pas. Et maintenant, cap vers la Tunisie.
Oui, Arnaud. Et là, nous allons parler de l'entretien de Mounir Batour, candidat à la présidentielle tunisienne. a donné au journal Le Point d'Afrique. Il est aussi l'avocat et le président de CHAMS, Association des défenses des droits LGBT, qui milite pour la dépénalisation de l'homosexualité. L'entretien a eu lieu en janvier 2019. Mounir Batour ne cache pas sa colère. Une froide colère étayée par de nombreux cas de Tunisiens arrêtés et condamnés car supposés homosexuels. Mi-décembre 2018, un homme a été violemment tabassé dans le gouvernorat de Monastir. Une fois devant la justice, alors lorsque le juge a appris que l'homme était homosexuel, il a relaxé l'un de ses agresseurs et condamné l'autre au sursis. La victime blessée et ayant 50 points de suture a ensuite subi un sermon mélangé de conservatisme et de religion. Plutôt c'est un infirmier victime d'un viol. Il porte plainte à la police, il est condamné, son agresseur innocenté. Il perd son travail. Mounir Batour reçoit chaque semaine des témoignages de gens raquettés, tabassés, torturés à cause de leur orientation sexuelle. Et il leur conseille de ne pas porter plainte, sinon ils vont être condamnés. L'article 230 du Code pénal tunisien condamne l'homosexualité à 3 ans d'emprisonnement. Un article qui date de 1913.
Alors, s'il date de 1913, pourquoi les arrestations aujourd'hui particulièrement se multiplient ?
Il a dit, je le cite, « C'est nouveau. J'ai l'impression que la médiation des arrestations homosexuelles les dérange particulièrement, car les médias étrangers en parlent beaucoup. Parfois, au lieu de les arrêter, on donne carte blanche à la police pour leur casser la gueule. J'ai l'impression qu'il y a des consignes du ministère de l'Intérieur pour nettoyer le centre-ville de Tunis. Chaque personne qui a l'air trop afféminée, piercing, jean serré, sourcils épilés, autant de signes jugés ostentatoires d'une homosexualité en subit les conséquences. Et comme vous n'êtes pas un citoyen comme les autres, vous ne pouvez pas porter plainte contre les violences policières. Nous sommes des citoyens sans droit. Criminaliser quelqu'un pour son identité sexuelle, cela relève du Moyen Âge. La loi tunisienne ne condamne pas les homosexuels à 3 ans d'emprisonnement, mais à perpétuité. Quand un homosexuel passe 3 ans en prison, quand il sort, est-ce qu'il deviendra hétéro ? Il reste homo, et il reste homo bien sûr, car ce n'est pas la prison qui va changer son orientation sexuelle. Il va revenir en prison pour 3 ans et ainsi de suite jusqu'à la fin de sa vie.
Alors mais justement, est-ce que tu peux nous en dire un petit peu plus sur cet article du Code pénal qui criminalise l'homosexualité ?
Oui, il a été instauré en 1913. L'article n'a jamais été remis en question. Il punit l'homosexualité masculine et féminine. Il punit tout rapport non reproductif. Une violation, c'est de la sodomie. L'interprétation est très large. Ce n'est pas seulement la pénétration anale. La justice tunisienne englobe toutes les formes d'homosexualité. 6 jeunes ont été arrêtés à Kartouane parce qu'on a trouvé des vêtements féminins chez eux. Ils ont été condamnés sur la base des vidéos homo trouvées dans leur PC. Moi, je les connais tous, ils sont homosexuels passifs. Le médecin légiste qui a pratiqué sur eux le texte anal par la force, menotté, obligé de se prosterner par 2 policiers, affirme qu'il a trouvé des traces de pédérastie chronique. Je m'excuse, wow, car cool. Il a constaté une dilatation de l'anus. La personne n'est pas propriétaire de son corps en Tunisie. L'État lui dit ce qu'elle doit en faire ou ne peut pas faire de son corps. Les principes du respect de l'intégrité physique et l'inviolabilité de la personne humaine, de son domicile, de ses données personnelles, principe consacré par la nouvelle constitution, tous les principes sont bafouillés quotidiennement en Tunisie. Après, d'après les dirigeants vont parler de la démocratie naissante dans les médias étrangers. Quelle démocratie ? C'est une vitrine que le gouvernement utilise. Aucun droit consacré par la constitution de 2014 n'est respecté en pratique.
Alors, bonne chance aux élections présidentielles, Monsieur Batour. Et maintenant, tu vas nous faire écouter une chanson, Mohamed, me semble-t-il. Est-ce que tu as un petit mot à dire au sujet de ce choix pour ce soir ? C'est Selif Keita, c'est bien ça la différence ?
Oui, tout à fait. Je vais essayer de nous faire écouter une chanson, notamment de l'icône africaine de la musique. Il est albinos et Selif Keita, et il lutte beaucoup contre toute forme de discrimination. Là, je vais vous laisser écouter et voilà.
Dans un instant.
J'ai Je suis un noir, ma peau est blanche, et moi j'aime bien ça. C'est la différence qui est jolie. Je suis un blanc, mon sang est noir, et moi j'adore ça. C'est la différence qui est jolie. Je voudrais que nous nous entendions dans l'amour, que nous nous comprenions dans l'amour et dans la paix. La vie se rappelle. La vie se rappelle, chacun à son tour aura son amour. La vie sera belle, la vie sera belle. La vie se rappelle.
Alors, nous allons revenir sur le droit d'asile, parce que voilà, j'étais tellement pressé que je suis parti à Navas.
Ben, tout va bien, là on a un petit peu de temps, donc on va pouvoir y consacrer un moment en espérant rendre le sujet quand même intéressant, parce qu'il y a beaucoup de choses à dire. Donc vous le savez, on l'a dit tout à l'heure à Quasar, il y a un groupe Droits des étrangers LGBTI+, qui agit depuis 2011. Il a aidé au nom de l'association plus d'une centaine d'exilés à obtenir la protection de la France. Depuis 2015, l'association est habilitée par l'OFPRA pour accompagner les demandeuses et demandeurs d'asile aux entretiens. Et aujourd'hui, Quasar assiste et conseille plus de 90 personnes en procédure. Donc nous avons donc, avec cette expérience, un peu de recul pour affirmer que les conditions d'accès au statut de réfugié se sont énormément durcies ces dernières années, sous cette présidence particulièrement, et nous ne sommes pas les seuls à le penser. Deux fonctionnaires de l'OFPRA ont accepté de témoigner de la réalité de leur travail au micro de France Inter ce lundi 7 octobre. C'est l'occasion pour nous aussi donc de parler du droit d'asile sur l'antenne de Radio G.
Alors, pour commencer, peux-tu nous parler, peux-tu nous dire d'abord c'est quoi l'OFPRA, Arnaud ?
Ben, quand vous avez fui votre pays en guerre, ou parce que vous êtes un opposant politique, un syndicaliste, un journaliste menacé par le pouvoir en place, ou encore que vous risquez l'excision, que votre religion soit source de persécution dans votre pays, ou, pour ce qui nous concerne, bien souvent parce que vous êtes lesbienne, gay, bisexuelle, transgenre, et que pour ça vous risquez la prison, voire le camp de concentration, la peine de mort, ou que votre famille peut intenter à votre vie, vous torturer, vous mutiler, que dans la rue, dans votre pays, il arrive que la foule tue un LGBT, ou supposé LGBT, eh bien, vous pouvez demander l'asile en France. Votre demande sera étudiée par l'OFPRA, Office français de protection des réfugiés et des apatrides. C'est un établissement public sous la tutelle du ministère de l'Intérieur. Il est chargé d'assurer l'application des textes relatifs à la reconnaissance de la qualité de réfugié, notamment.
Alors, quand il dit, voilà, ces deux officiers de l'OFPRA sur l'antenne de France Inter.
Eh bien, ces deux officiers nous ont fait part de leur inquiétude et considèrent que le droit d'asile est attaqué en France. Une crainte renforcée par les propos tenus le 16 septembre dernier par le président de la République, ce président qui a réformé en 2018 le droit d'asile avec l'aide de son ministre de l'époque, Gérard Collomb. Une réforme, il faut bien le dire, pour rendre la vie des demandeurs et demandeuses d'asile encore plus compliquée. Donc devant les ministres et parlementaires de la majorité, Emmanuel Macron a évoqué un droit d'asile détourné de sa finalité par des réseaux. On se souvient du fameux benchmark de l'asile de Gérard Collomb et des fake news beaucoup plus récentes et beaucoup plus graves de Christophe Castaner, qui a dit sur les ONG qui sauvent des vies en Méditerranée qu'elles sont complices des passeurs, en reprenant les propos de Matteo Salvini, le tristement célèbre ministre de l'Intérieur italien. Et ce mardi 23 septembre, encore à l'antenne de France Inter, c'est Gérald Darmanin, qui est ministre de l'Action et des Comptes Publics, qui parlait quant à lui de dévoiement du droit d'asile.
Donc ces deux officiers veulent répondre à l'exécutif ?
Eh bien, en tout cas, ils veulent alerter, et il faut le savoir, les officiers de protection de l'OFPRA ne sont pas autorisés à parler publiquement. Les voix de ces officiers ont dû donc être déformées et leurs prénoms changés car ils risquent de perdre leur emploi, mais aussi des sanctions pénales, jusqu'à 3 ans de prison. Quand un établissement public pose une chape de plomb comme celle-là sur des officiers, c'est en principe qu'elle a bien des choses à cacher.
Donc l'OFPRA étudie la demande d'asile d'un ou une exilée, mais ce droit d'asile concrètement, c'est quoi, Arnaud ?
Eh bien, c'est un droit fondamental reconnu par la Déclaration universelle des droits de l'homme de 1948, article 14, ainsi que la Charte des droits fondamentaux de l'Union européenne, plus récente, elle date de 2000, mais surtout de la Convention de Genève du 7 juillet 1951. En France, c'est la loi du 25 juillet 1952 qui fixe les conditions d'application de la Convention en droit français, et c'est de cette loi qu'est né l'Office français de protection des réfugiés et apatrides, l'OFPRA. Et le 13 août 1993, le droit d'asile a été consacré principe de valeur constitutionnelle, donc par le Conseil constitutionnel. Il est maintenant écrit dans notre Constitution que tout homme persécuté en raison de son action en faveur de la liberté a droit d'asile sur les territoires de la République. Il peut donc venir se réfugier en France et demander la protection de notre pays. Si celui-ci lui accorde, il aura la qualité de réfugié.
Et qu'est-ce qu'un réfugié précisément ?
Alors, pas de meilleure définition que l'article 1er de la Convention de Genève du 28 juillet 51. Et que dit-il cet article ? Eh bien, il dit ceci. Le terme de réfugié s'applique à toute personne craignant avec raison d'être persécutée du fait de sa race, de sa religion, de sa nationalité, de son appartenance à un certain groupe social ou de ses opinions politiques, se trouve hors du pays dont elle a la nationalité et qui ne peut ou, du fait de cette crainte, ne veut se réclamer de la protection de ce pays. Nous, les LGBT, nous sommes évidemment dans un certain groupe social.
C'est donc en application de cette convention de Genève et de son article 1er que les officiers de protection de l'OFPRA accordent le statut de réfugié ou rejettent la demande du demandeur d'asile.
Oui, parce qu'à écouter certains policiers, hein, y compris dans le gouvernement actuel, il suffit de demander l'asile pour l'obtenir. La réalité, elle est tout autre. Hein. Sur les 122 000 demandes l'année dernière, 76 000 ont été rejetées. Parmi ceux qui ont eu la chance d'obtenir une protection, beaucoup n'ont qu'une protection subsidiaire. Alors, elle dure qu'un an, elle est renouvelable. J'entrerai pas dans le détail, mais en tout cas, on n'obtient pas le statut de réfugié. Donc, obtenir cette qualité de réfugié est un vrai parcours du combattant, constitué d'une succession d'obstacles à franchir le plus rapidement possible, et ça ne va pas s'arranger.
Parce que, comme tu le disais tout à l'heure, lundi, un nouveau débat s'est ouvert à l'Assemblée sur l'immigration et le droit d'asile. Ce même débat aura lieu ensuite au Sénat. Et après, d'après le journal Le Monde, le ministère de l'Intérieur va soumettre un projet concernant les demandes d'asile, les prestations sociales, le durcissement de l'immigration familiale et l'augmentation du nombre de places en centre de rétention.
Oui Mohamed, c'est pourquoi nos deux juristes de l'OFPRA qui témoignent au micro de France Inter ont décidé de raconter leur travail au quotidien, de leurs entretiens avec les demandeurs d'asile, aux collègues qui craquent parce que c'est trop dur. Alors Pierre, l'un des deux officiers, commence par dire ceci au sujet de l'entretien avec le demandeur d'asile, entretien qui permettra à l'officier de déterminer si le demandeur peut bénéficier de la protection de la France ou non. Donc il dit ceci Pierre. La législation actuelle fait que ces gens ont à peine posé le pied en France, qu'ils doivent demander le droit d'asile. Tout va très vite, ils arrivent, le dossier doit être rempli, un mois après il faut passer à l'OFPRA. La plupart des gens viennent de Libye où ils ont quasiment tous subi des tortures, des kidnappings, des sévices sexuels. Et là sa collègue ajoute « J'essaie de faire en sorte que ça reste une discussion et pas un interrogatoire. Ils en subissent déjà quand ils sont arrêtés, détenus. Ces entretiens peuvent aller de 1 à 4 heures. Il peut y avoir plusieurs entretiens. Je n'ai jamais regretté une décision », affirme-t-elle. Alors pour avoir assisté à plus d'une dizaine de ces entretiens, je peux affirmer que beaucoup ressemblent à des interrogatoires et que si Evelyne ne regrette jamais ses décisions, nous à Quasar, nous sommes fréquemment déçus par la décision de l'OFPRA, souvent incompréhensible quand même. Mais son collègue Pierre avoue ceci et du coup on comprend mieux. Ce qui me gêne, c'est le traitement qui peut être différencié selon les nationalités. Effectivement, qu'on vienne d'Afghanistan ou qu'on vienne d'Allemagne, on ne court pas les mêmes risques, mais on doit traiter les demandes individuellement et au cas par cas. Si on commence à faire des généralités sur telle ou telle nationalité, on va passer à côté de personnes qui sont persécutées chez elles et ça me pose problème. Il nous est demandé de traiter très rapidement. On fait alors un deux poids, deux mesures. Il y a les bons demandeurs d'asile et les mauvais. Les bons viendraient de pays en guerre. Et sa collègue Evelyne confirme, l'accélération de l'examen de la demande liée à la loi de 2018 dessert notre travail. Quelqu'un qui dort à la rue, n'a pas mangé depuis plusieurs jours, n'est pas en mesure de pouvoir se concentrer, comprendre nos questions et encore moins d'y répondre. Et elle ajoute, je gère 367 dossiers par an. Ça fait 2 demandeurs par jour. C'est un temps insuffisant pour mener un entretien apaisé. Ce ne sont pas des chiffres, ce sont des humains. Nous aussi, à Quasar, nous déplorons l'accélération des procédures suite à cette réforme de 2018. Quand nous accueillons un ou une exilée en raison des persécutions subies dans son pays liées à son orientation sexuelle, nous recevons une personne la plupart du temps traumatisée, ayant subi des violences, des mutilations, parfois un viol punitif ou correctif. Pour ces personnes, un mois n'est pas suffisant pour libérer leur parole, et je ne parle même pas du choc culturel et du barrage de la langue. Je pense à ce jeune homme qui a mis 6 mois à nous dire que sa verge avait été transpercée à coups d'aiguille de tanneur par son père, et qu'aujourd'hui il en conserve des problèmes fonctionnels. Pourtant, l'OFPRA a rejeté sa demande une première fois parce qu'il n'avait pas les mots pour le dire, et une deuxième fois alors qu'informé, nous lui avions fait établir un rapport médico-légal par un médecin légiste. Malheureusement pour lui, il ne venait pas d'un pays en guerre. Mais revenons à Evelyne, car elle rencontre des homosexuels bavards et elle nous dit « Un jeune homme m'a expliqué avoir dû fuir son pays en raison de son orientation sexuelle. L'entretien a duré très longtemps car c'est quelqu'un qui avait besoin de parler. Ce qui m'a beaucoup touché, c'est l'émotion de ce jeune homme quand il racontait son histoire, son orientation sexuelle, sans avoir peur de cet aveu. » affirme-t-elle. Je ne vais pas faire de commentaires sur l'aveu, mais je peux dire qu'il n'y a pas beaucoup d'Evelyne à l'OFPRA. Et même avec un officier empathique, il faut savoir prouver que l'on est bien homosexuel, décrire ses sentiments à l'éveil de ses désirs, son mal-être à l'adolescence, ses craintes en tant que jeune homosexuel, savoir parler du seul garçon avec qui on a pu avoir une relation avant tout sexuelle, comme si c'était l'amour de sa vie, au point de connaître toutes ses passions, ses hobbies, sa famille, son âge, alors qu'au pays on ne fête pas les anniversaires, devoir raconter son meilleur souvenir avec lui sans que ce soit une partie de jambe en l'air, et que tout sonne juste pour que l'officier, avec ses références françaises et parfois même exclusivement hétérosexuel, puisse être convaincu.
Tu as débarqué chez nous avec dans ton maigre bagage une grande espérance. Tu sais que si on te renvoie chez toi, tu seras emprisonné et plus personne n'entendra parler de toi. À peine es-tu arrivé chez nous qu'on t'enferme, parfois avec femme et enfants, on te tabasse. On te refait ce que tu as déjà enduré chez toi. Tu supplies qu'on te donne un laissez-passer, un visa pour la vie plutôt que pour l'éternité. Tu es un demandeur d'asile. Si tu ne trouves pas asile ici, tu trouveras asile de l'autre côté. Tu attends un billet pour la mort ou pour la liberté. Mon voisin me dit, qu'est-ce que tu racontes? Ce que tu dis, ça se passe ailleurs, pas ici. Hélas, mon voisin, ça se passe tout près, à deux pas de chez toi. Et toi et moi, nous marchons libres dans le soleil. Sais-tu que rien n'est sûr sur cette boule ronde? Sais-tu que ce qui est sûr, c'est que rien n'est certain et que nous pourrions devenir, toi comme moi, des sans-papiers? Que sait-on de l'avenir dans le tohu-bohu de ce temps? Si cela arrivait par malheur, alors il ne faudrait pas nous étonner que nous soyons traités comme nous avons traité chez nous les sans-papiers.
Vous êtes bien sûr sur l'antenne de Radio G 101.5 FM à l'écoute de Quasar Entière. Et à l'instant, c'était Gilos Boukam qui chantait Les Sans-Papiers. Un titre qui colle au sujet dont il nous parle ce soir, Arnaud, le droit d'asile.
Oui, Mohamed. Depuis quelques années, donc une menace pèse sur le droit d'asile en France. Beaucoup s'en inquiètent, mais pour la première fois, donc deux officiers de l'OFPRA risquant des sanctions pénales parlent et dénoncent. Alors, Evelyne et Pierre, ils ont été rebaptisés ainsi. Donc, Evelyne déclare « Dans les discours, on mélange migrants, étrangers, demandeurs d'asile, clandestins, sans papier, tous dans le même sac. Cette instrumentalisation me révolte parce que je reçois des demandeurs d'asile tous les jours. On fait passer des demandeurs d'asile pour des imposteurs, des gens qui viendraient profiter du système. Ils ont parfois vu mourir leurs amis sur le trajet et on nie leur humanité en parlant d'eux comme des usurpateurs. L'appel d'air... C'est dire qu'accueillir dignement un demandeur d'asile, lui accorder des droits, ça ferait venir les gens. C'est pas vrai. Personne ne quitte son pays pour avoir des allocations. Ça n'existe pas. Ils ne sont pas là pour ça. Donc, on peut serrer la vis partout, ils viendront toujours. S'ils doivent quitter leur pays parce que leur vie est menacée, peu importe ce qu'on fait, ils viendront toujours. L'appel d'air n'existe pas. Quotidiennement, on reçoit des personnes qui sont désemparées. Elles ne parlent pas notre langue, ne comprennent pas la procédure dans laquelle on les a placées. On les oriente vers des associations qui sont elles-mêmes surmenées, qui ne peuvent plus les recevoir. Fin de citation. Pour les officiers de protection, la vie n'est pas simple non plus, parce que Pierre nous dit « N'importe quel officier de protection a craqué à un moment. Tout le monde a son histoire, le moment où l'histoire nous émeut trop et où l'on ne peut plus continuer l'entretien. Des gens que je connais et qui font ce métier depuis 15 ans le font toujours avec autant de ferveur et ils restent des défenseurs du droit d'asile. Simplement, il faut pouvoir le faire dans de bonnes conditions. Aujourd'hui, c'est moins le cas car on attaque, on vise le droit d'asile. L'amalgame est fait entre les migrants qui viennent ici pour avoir un travail et des gens qui craignent pour leur vie et qui sont partis parce qu'ils étaient en danger de mort. Les gens qui fuient parce qu'ils n'ont plus le choix sont des demandeurs d'asile, sans quoi ils seraient morts. Certains de mes collègues démissionnent car ils se rendent compte rapidement qu'ils ne supportent pas d'entendre ces récits et surtout de devoir trancher.
Si je comprends bien, ces deux officiers dénoncent les pressions qu'ils subissent en réaffirmant ce droit fondamental inscrit dans notre Constitution. Ils disent qu'il est aujourd'hui menacé par un pouvoir politique qui utilise ce droit d'asile en disant qu'il est détourné par des usurpateurs,
oui.
Voilà, pardon, pour masquer les réels problèmes en France.
C'est ce que dit Pierre, en effet, hein, je le cite. « Aujourd'hui, on a dépassé la crise de 2015. Le nombre de demandeurs d'asile a augmenté, mais sur le territoire européen. Les arrivées ont drastiquement diminué. S'il existait un mécanisme européen réel et juste de répartition des migrants, on pourrait gérer ces arrivées sans difficulté. Les 120 000 demandes pour l'État français, ce n'est pas énorme. Ce qui est problématique, c'est de mélanger immigration et droit d'asile. On pourrait sanctuariser le droit d'asile et ne pas y toucher. Chaque année, 35 000 personnes sont reconnues réfugiées en France sur 66 millions. A priori, ce n'est pas l'invasion. » Et Evelyne ajoute « Le droit d'asile est un droit particulier, c'est quelque chose qui est encadré, donc il faut que la personne rentre dans ce cadre-là. Les critères sont ceux de la Convention de Genève, donc des critères très précis, ce n'est pas n'importe quoi, le droit d'asile. C'est inscrit dans l'histoire de l'humanité. Aujourd'hui, on reçoit les demandeurs d'asile, mais n'oublions pas qu'à une époque, les gens partaient d'ici pour trouver refuge ailleurs. » Fin de citation.
Et en conclusion, qu'est-ce que l'on doit retenir de ces témoignages ?
Eh bien, pour la première fois, des officiers de protection de l'OFPRA en activité dénoncent les cadences, les conditions de traitement de la demande et surtout confirment enfin que des choix peuvent être faits en raison de la nationalité du demandeur. On dit que l'OFPRA est indépendante, mais je vous rappelle qu'elle est placée sous la tutelle du ministère de l'Intérieur depuis 2010. Ce même ministère qui va soumettre dans quelques semaines un projet concernant les demandes d'asile et l'augmentation du nombre de places en centre de rétention. Pour être clair encore, à Quasar, les personnes que nous accompagnons dans cette procédure de demande d'asile sont de plus en plus rares à obtenir leur statut à l'OFPRA. La plupart, il faut le dire, arrivent d'un pays pour lequel l'OFPRA reçoit beaucoup de demandes. Sans doute beaucoup trop pour ces statistiques. Ce n'est pas un pays en guerre, mais en revanche, l'homosexualité y est condamnée par la loi et en la matière, on se fout pas mal de la loi et on règle en principe le problème en famille et on peut même mourir dans ce pays pour cette raison. La grande majorité des personnes que l'on accompagne obtiennent donc leur statut à la CNDA, la Cour nationale du droit d'asile, auprès de laquelle on peut former un recours si l'OFPRA rejette votre demande. C'est là, à la Cour nationale du droit d'asile, devant un juge indépendant, que les personnes que l'on accompagne obtiennent la protection de la France. La justice est encore indépendante. L'OFPRA n'est qu'une administration. Ce que nous disent Pierre et Evelyne, c'est qu'ils décident de moins en moins. Leurs choix sont orientés, le traitement de la demande est conditionné. Contrairement à ce que l'on nous raconte, la demande d'asile n'est pas détournée et utilisée par des imposteurs. En revanche, ces officiers font la preuve que ce droit fondamental, ce droit sacré, ce droit humain, ce droit constitutionnel censé permettre la protection des personnes persécutées, eh bien aujourd'hui, notre exécutif le maltraite et le menace à des fins politiques.
Arnaud, tu nous parles de l'Indonésie pour commencer ?
Oui, je peux t'en parler, Mohamed. Plus exactement d'un nouveau code pénal qui pourrait bien compliquer la vie des LGBT indonésiens. Le site 360 nous apprenait ce 28 septembre que des mouvements de protestation s'étendent en Indonésie alors que le pays se prépare à adopter une réforme à haut risque pour les femmes et les minorités. En effet, le pays connaît une mobilisation sans précédent depuis les manifestations de 98 dans tout l'archipel. Des dizaines de milliers d'étudiants ont manifesté pour exiger l'abandon d'un nouveau code pénal censé remplacer celui hérité de l'époque coloniale néerlandaise. Et parmi les dispositions les plus contestées, la criminalisation du blasphème, des rapports sexuels hors mariage, de la promotion de l'avortement et de la contraception, tous passibles de peine de prison. Le texte prévoit aussi des limitations drastiques de la liberté d'expression, de réunion, ainsi qu'une reconnaissance des lois coutumières locales inspirées de la charia. L'Indonésie est le pays qui compte le plus grand nombre de musulmans au monde. Pour les organisations de défense des droits humains, ce sont les droits des femmes et des minorités religieuses qui sont particulièrement exposés. Mais c'est également ceux des personnes LGBT particulièrement visées par un article 421 qui punit, je cite, les actes obscènes de 6 mois de prison. Et l'article sur la pornographie pourrait permettre de condamner les auteurs de documents d'information ou de prévention, souligne Human Rights Watch. Excusez mon accent anglais. La loi pénale d'Asset devient loi nationale, résume un activiste LGBT, Lini Zurlia, cité par l'AFP, évoquant pour Asset la seule province d'Indonésie à avoir adopté la loi islamique en 2014 qui interdit évidemment l'homosexualité. Donc devant l'ampleur des manifestations, le président Joko Widodo a ordonné le report du vote sur le code pénal. Il pourrait revenir très vite au Parlement, dont les nouveaux membres issus des élections du printemps dernier entreront en fonction ce mois-ci.
Merci beaucoup pour les infos. Donc, l'agenda, Anne.
Eh ben oui, c'est l'agenda. Alors, l'agenda de Quasar, centre LGBTI plus danger. Vous pouvez venir nous voir au 32 avenue de Chanzy, en tout cas pour le moment, pour quelques semaines encore. Bientôt une nouvelle adresse, toujours à Angers. Plus d'infos sur Facebook et les réseaux sociaux dès que nous aurons déménagé. Il y a bien entendu, comme toujours, les permanences pour tous les samedis de l'année, de 17h à 19h, pour discuter en buvant un café ou une boisson fraîche, échanger, etc. Vous avez aussi les conviviales. Chaque troisième vendredi de chaque mois, on y apporte à manger et à boire selon ses moyens et on partage. On discute, on chante, bref, on passe une bonne soirée en général. Et puis bien sûr, vous pouvez avoir un rendez-vous individuel en téléphonant ou en envoyant un mail à Quasar. Téléphone 02 41 88 87 49 et le mail centre-lgbt-angers@quasar.fr.
quasar.fr. Vous pourrez voir nos actions sur Facebook, sur Facebook de Quasar, Centre LGBTI d'Angers. Le prochain événement à vous signaler, c'est la visite commentée de l'abbaye de Fontevraud le 13 octobre en compagnie d'une adhérente, en fait c'est moi. Et donc rendez-vous à Quasar à 13h30 ce dimanche-là. On va organiser du covoiturage pour sauver la planète et puis bon, c'est plus sympa, faut bien dire. Et puis pour les gens à pied, c'est plus pratique parce que Fontevraud, c'est pas tout à fait à côté. Voilà, il est maintenant 20h59 minutes et presque 30 secondes. Vous êtes toujours sur Radio G, Angers 101.5 FM. Nous, on va s'en aller, on va laisser la place à Thierry et qui va pouvoir nous lancer Sons of Blues. Ah, oh bah décidément.
Et puis, on essaiera de faire un contenu peut-être un peu plus léger que celui de ce soir. On parlera de séries télé, tout ce que ça.
Oui, oui, oui. Et au fait, le 23 novembre, dossier sur le 1er décembre, SIDA. Voilà.